On va aller parler avec M. Renaud Lebuis, qui est père de deux enfants, Delphine, 10 ans, et Simon, qui a 13 ans. Simon est atteint d'autisme sévère, de déficience intellectuelle, et il est non-verbal. Et on sait que déjà, pour beaucoup de parents, cette période de confinement, c'est pas facile. Il y a évidemment le stress qui est relié au virus comme tel. Il y a aussi, pour plusieurs, le stress financier. Et dans le cas des enfants qui ont besoin d'une routine bien établie, qui ont besoin d'un support, ça demeure extrêmement difficile. Et je parle avec M. Lebuis parce que, un, il m'a écrit, mais parce qu'il est le témoin, je pense, d'une situation vécue par beaucoup d'entre vous. M. Lebuis, bonjour.
Oui, bonjour.
Parlez-moi un peu de votre situation d'abord. Je le disais, vous avez deux enfants, Delphine qui a 10 ans, Simon qui a 13 ans. Simon souffre d'autisme sévère, déficience intellectuelle, et il est non-verbal. Comment se passait sa vie avant d'être comme ça confiné avec les autres membres de la famille?
C'est ça, du jour au lendemain, tout a changé. Avant le confinement, puis la situation qu'on connaît, Simon fréquentait une école spécialisée de Laval. Simon avait le transport adapté, évidemment. Il y avait une enseignante, une éducatrice pour 6 enfants. Donc, c'est un ratio très, très, très bas. Et aussi, ils étaient très encadrés dans leur routine quotidienne. Donc, il y avait des tâches à effectuer à toutes les 4 ou 5 minutes. Parce que ces jeunes-là ont besoin, justement, d'une routine, d'un encadrement, puis d'une capacité de pouvoir savoir qu'est-ce qui s'en vient. Donc, en plus, évidemment, on avait la chance d'avoir les services d'une éducatrice spécialisée du CRDI de Laval. On avait également les services d'une orthophoniste, d'une ergothérapeute et même d'un sexologue. Donc, on avait tous ces services-là parce qu'on on fréquente, Simon traverse une période qui est plus difficile, début de l'adolescence. Et bien, c'est ça, du jour au lendemain, tout ça s'est évaporé. En plus, nous, on avait un réseau familial qui était très fort, qui l'est encore, mais on peut pas se fréquenter. Donc, ce support-là est disparu également.
Prenons un exemple. Là, vous me dites dans votre courriel que Simon aime beaucoup, par exemple, aller en voiture et aller voir son cousin ou encore des membres de la famille, ce qu'il ne peut plus faire maintenant.
Oui, exact. Donc, les personnes autistes, donc moi dans mon cas, mon jeune a des intérêts qui sont restreints. Donc il y a peu de choses qui l'intéressent, les DVD, les iPad, les films de Pixar, mais aussi son fameux cousin qu'on aime beaucoup et les autres membres de la famille, mais aussi se déplacer bizarrement, mais se déplacer en voiture pour aller voir quelqu'un. Et c'est vraiment sur le bord d'être obsessif, entre guillemets. Là. Donc, il doit pouvoir savoir qu'est-ce qui s'en vient. Donc, habituellement, ce qu'on fait, c'est que avec la collaboration de notre famille, ben on met sur l'horaire, disons, le samedi prochain, ben oui, gars, Simon, tu vas aller voir ton cousin, on va prendre la voiture. Et là, ça l'amène à s'auto-réguler en disant, il finit par comprendre que oui, on a compris ce que lui veut, même s'il est non-verbal, on essaie de comprendre ses besoins. Et il sait qu'on l'a compris, donc il voit sur son horaire, « Ah, je vais aller voir mon cousin Rémi. » Donc, ça l'apaise. Mais là, actuellement, encore là, c'est plus possible. Les déplacements sont pas possibles. Les rassemblements ne le sont plus.
Est-ce qu'il comprend pourquoi il peut pas aller voir son cousin? Est-ce qu'il comprend pourquoi ce qu'il faisait avant n'est plus là?
Non, absolument pas. Okay. C'est impossible pour lui de comprendre ça.
Et sa réaction de voir qu'il ne peut pas aller faire son tour de voiture puis d'être en contact avec les autres, comment il réagit à la maison avec vous?
Bon, dans le fond, il rumine un peu ses idées. C'est comme si dans sa tête, là, il y a comme un spin qui se fait, puis il reste pris avec cette idée-là que j'aimerais aller voir. C'est ce qu'on présume. Évidemment, on ne peut pas être sûr, mais je vais aller prendre l'auto, c'est pas possible, je vais aller prendre l'auto. Bon, vous comprenez. Donc, là, il se désorganise. Donc, qu'est-ce que c'est, se désorganiser pour un enfant autiste? C'est, dans notre cas, en tout cas, c'est crier, hurler, en fait, se pitcher à terre, donner des coups, et chercher, si on s'approche, nous, dans cette situation-là, pour essayer de le calmer, ben il va nous frapper aussi. Donc, un jeune de 13 ans, Simon pèse à peu près 115 livres, c'est pas un gros bonhomme, mais un jeune dans une crise comme ça frappe très fort. Pour vous donner un exemple, après une couple de coups, il a fait un trou dans le mur chez nous.
Et là, vous, vous êtes en télétravail, tout comme votre conjointe, je pense.
Oui, bien, nous, on a la chance, on est travailleurs autonomes. En fait, on a une petite entreprise, puis on travaille de la maison. Moi, ça fait à peu près un an que j'ai parti ça. Geneviève, elle avait arrêté de travailler à temps plein depuis longtemps parce que, la situation de Simon faisait en sorte qu'on avait trop de choses à gérer, trop de rendez-vous, trop de spécialistes à rencontrer pour pouvoir tous les deux travailler. Donc, Geneviève, avait dû arrêter de travailler.
Et là, ça veut dire que Simon, il ne peut pas rester seul longtemps. Là, toujours, vous ou votre femme, vous devez être avec lui. Là.
Exact, exact. Donc, on doit être là. On peut le laisser peut-être un 15-20 minutes, mais il doit y avoir quelqu'un. Donc, ce qui se passe dans notre quotidien depuis le confinement, en fait, là, c'est que chacun de nous, on alterne. Là. Un est dans le bureau, il essaie de travailler. L'autre est avec Simon, avec son laptop. Puis comme je disais à votre recherchiste hier, sur un 3 heures, entre guillemets, là, d'être avec Simon puis essayer de travailler, on a peut-être un 45 minutes de productivité là-dedans. Là.
Vous avez besoin de quoi?
On a besoin d'un répit. En fait, parce que tu sais, ces jeunes-là avaient des besoins auxquels on répondait. Et là, tout d'un coup, les besoins sont là, mais il n'y a plus rien qui existe comme service, comme soutien, comme support. Donc, honnêtement, je ne sais pas comment qu'on va faire pour traverser cet épisode-là, parce que c'est extrêmement angoissant, puis on n'a pas la compétence, on est des parents, oui, on a des parents d'enfantistes, on les connaît tout ça, mais on n'a pas cette compétence-là pour prendre en charge un enfant dans cette situation-là, puis on a besoin d'air, là. C'est comme on se disait, ma blonde puis moi hier, c'est une question de santé mentale, là, vraiment, c'est pas une complainte, là, c'est vraiment une question de bien-être, mais de bien-être essentiel. Là. Puis aussi, si vous me permettez,
absolument.
Nous, on a la chance, entre guillemets, d'être capable de bien articuler nos demandes. On collabore, mais on a le service aussi de tous les professionnels. Mais je pense, vous savez, la majorité des couples qui ont un enfant comme de l'âge de Simon ont divorcé depuis un bon moment. Donc, ce qui arrive souvent, c'est que c'est les mères monoparentales qui se retrouvent avec un enfant, peut-être deux enfants, dont un qui est autiste. Ces personnes-là ou ces mères-là sont de façon quotidienne, là, même pas en situation de crise comme on le vit, sont en situation de survie, ces personnes-là. C'est je vais passer à travers la journée d'aujourd'hui, je vais passer à travers la prochaine heure. Donc, je peux difficilement m'imaginer comment ces personnes-là font pour traverser la période qu'on vit, parce que nous-mêmes, on a un couple, on a Delphine qui est notre rayon de soleil, puis on trouve ça excessivement difficile. Donc, on avait formulé une demande auprès de notre éducatrice spécialisée du CRDI en disant on a besoin d'aide, on a besoin de répit. Elle, qui est vraiment extraordinaire, a fait progresser cette demande-là dans la machine, entre guillemets. Puis, il y a un projet de répit qui avait été envisagé. Des gens avaient été identifiés, puis tout ça. Puis, on l'a appris hier. Oui, c'est ça, c'est hier. On a appris hier que quelqu'un avait donc pris la décision que ce répit-là n'aurait pas lieu.
Je dois vous dire que, et c'est rien, ça ne change rien à vous personnellement, là, vous n'êtes pas le seul. Mais il y a beaucoup de gens qui sont dans cette situation-là, vous avez raison de le souligner, et qui vivent ce stress-là puis qui appréhendent les prochaines semaines. Si j'avais à résumer, dans le fond, de façon urgente, vous puis les autres familles qui sont dans la même situation, comme un service de répit qui serait l'équivalent d'un service de garde pour les employés des services essentiels, d'avoir un moment où vous pouvez respirer puis prendre du temps pour vous, pour relaxer, pour enlever cette pression-là.
Oui, exact. Ben, vous le formulez très bien. Puis en fait, ce qu'on sait, c'est bon, ben, comme tout le monde le sait, ce service-là a été mis en place pour les gens qui travaillent dans le de la santé. Mais à l'intérieur de ce service-là, il y a déjà aussi un sous-groupe qui prend en charge les enfants de ces familles-là, mais qui ont des besoins particuliers. Donc, ça existe, là. Ces besoins-là sont... On répond aux besoins de ces enfants-là déjà avec ce service-là. Donc, si c'est possible... En plus, c'est quand même des enfants d'un papa ou d'une maman qui sont dans le réseau, donc sont plus à risque, je l'imagine, là, en termes de pourcentage, d'être affectés par le virus en fréquentant des personnes malades. Bref, ce que je veux dire, c'est qu'un père puis une mère à la maison en télétravail qui envoie un enfant dans un centre avec peut-être un ratio d'enfants plus petits, peut-être avec toujours les mêmes éducatrices qui peuvent peut-être avoir à la limite un petit masque si on vraiment veut limiter complètement les contacts, mais c'est sûr. En fait, le staff est là. Le réseau, là, il est déjà en place. Ces gens-là travaillaient, puis ils travaillaient fort à répondre aux besoins, puis les enfants, eux, ils ont aussi encore des besoins. Donc, il faut absolument trouver une façon de mettre ça en place, parce que je me répète, là, désolé, mais c'est vraiment une question de santé mentale et de pouvoir respirer puis rester en maîtrise de soi puis de pas faire je veux pas dire que je vais poser un geste, mais ce que je veux dire, c'est de garder cette capacité-là de confronter cette situation-là.
Je comprends très bien. Écoutez, je peux rien vous garantir, mais la seule chose que je peux vous dire, on va essayer de faire avancer votre demande, votre démarche, voir pourquoi ça bloque, où ça bloque. Je comprends qu'il y a 28 000 priorités là, pour les gens du réseau, mais vous en êtes une, et vous, les autres parents, parce qu'on sait très bien que c'est pas demain la fin. Là.
Non.
La semaine prochaine, on va être encore dans la même situation, puis probablement l'autre semaine d'après. Alors, ben, merci beaucoup d'avoir pris le temps ce matin. Bonne chance à vous, M. Lebuis.
Ben, merci à vous, puis félicitations pour le travail que vous faites et votre équipe. C'est vraiment essentiel, puis c'est formidable.
Merci. Alors, on se donne des nouvelles bientôt. Renaud Lebuis est le père de deux enfants, Delphine et Simon. Osons en ajouter. J'espère qu'il y a des gens en autorité qui auront vent de cette entrevue, parce que c'est clair qu'il faut donner un répit. Il y a combien de ces parents qui vivent ça? Déjà, c'est dur en temps normal. Là, dans un contexte de confinement, ils ont besoin d'une pause, là. Quand on dit qu'au-delà de la santé physique, la santé mentale devient un enjeu dans cette crise, ben, je pense qu'on vient d'avoir une démonstration.